Ah, je suis tellement pressé d'ouvrir la parole de Dieu. Est-ce que c'est mieux que je garde ce micro-là ou ça va? On peut dire, je vais un peu bouger. Je vais un peu bouger.
Le pays d'où je viens, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu que nous sommes appelés à vivre, à établir et à voir grandir autour de nous dans ce monde. Nous sommes appelés à cela. Et j'aimerais lire un texte dans la parole. Je ne vais pas vous dire où c'est, à dessein. Lorsque tout le monde connaît parmi nous, je pense, la parabole des deux maisons et des deux fondements. Lorsque Jésus parle de cette parabole, par quoi commence-t-il? Par quoi commence le texte? On connaît tous les petits chants, le fou sur le sable a bâti sa maison. Qu'est-ce qui détermine le fait d'avoir bâti sa maison sur le roc? Je vous pose cette question-là parce que si vous me l'avez posée il y a quelques semaines, j'aurais dit, je ne sais pas, en fait, réellement. Ben, on le sait dans les grandes lignes, mais ce qu'en dit la parole, ce que les paroles de Jésus précisément, je ne le savais pas. Est-ce que des gens parmi nous le savent? Ce n'est pas un piège hein, que je vous tends là. Ah, bravo, bravo. Jésus, dans Luc 6, à partir du verset 46, tiens, j'ai pas besoin de lunettes ce matin. Si je veux. Ouais, ça va. Jésus pose cette question à ses disciples. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous commande? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je vous commande? Et il continue en disant, je vous montrerai à qui est semblable un homme qui vient à moi, qui entend mes paroles et les met en pratique. Et cet homme-là est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc et le compare à celui qui a bâti sa maison sur le sable. Alors, je peux imaginer que les deux maisons sont identiques et pendant un certain nombre de mois ou d'années, aucun problème. On ne voit pas la différence. Et peut-être même que celle qui a été bâtie sur le sable a été montée plus vite parce qu'il faut du temps pour mettre bien les fondements. Et remarquez que le problème vient lorsque l'épreuve arrive. La tempête qui ici symbolise l'épreuve, qui inévitablement dans nos vies, des gens, il y a peut-être des gens parmi nous qui sont en plein temps privilégié, mais si vous êtes en plein temps privilégié, c'est que vous venez de traverser une tempête, sans doute, et que très certainement vous vous apprêtez à en traverser une autre dans les temps qui viennent. La tempête fait partie de la vie, on ne peut pas y échapper. Et remarquez que Jésus, il y a trois étapes pour bâtir sa maison sur le roc. Celui qui vient à moi, d'abord, vient à Jésus, qu'il entend mes paroles et qu'il les met en pratique. Et celui-là, il a bâti sa maison sur le roc. Si je vous posais une question ce matin, je pense que peut-être certains d'entre nous auraient du mal à répondre concrètement, parce qu'il y a plein de choses. Moi, je me suis converti il y a 20 on s'est converti avec mon épouse il y a 29 ans cette année. Il y a plein de choses qui font partie de notre patois de Canaan, de notre vocabulaire. Et parfois, si on devait expliquer, on serait un peu emprunté de trouver les mots. Les mots sont importants. Que signifie, alors, venir à Jésus? On sait ce que ça veut dire, voilà. Venir entendre ses paroles, on est là, on entend les paroles aujourd'hui, et les mettre en pratique. Qu'est-ce que ça signifie réellement? concrètement. Moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. Tu m'emballes pas avec des théories. Là, les grandes théories ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir, voilà, dans ma vie, le réel, le concret, qu'est-ce que ça importe. Et je me rends compte que l'Église, à travers les siècles, elle a très souvent eu un discours qui se rapportait à l'Antiquité. La Bible fait partie de l'Antiquité. Un discours qui se rapporte à l'Antiquité pour parler de l'éternité. L'Antiquité, 95 ou 98% des gens s'en fichent. Ce n'est pas leur problème. Peut-être deux, trois historiens dans le tas, ils vont être intéressés, mais tous les autres n'ont rien à faire. L'éternité, les gens n'ont rien à faire non plus, parce que de toute façon, personne n'est jamais venu de là-haut pour nous dire s'il y avait quelque chose, donc rien à battre. L'Antiquité, l'éternité, mais au milieu, il y a la réalité. La réalité. Et l'Église a été trop souvent dans les deux pôles, mais en n'étant pas dans la réalité. Et les gens aujourd'hui, quand tu leur parles de Dieu, mon problème en tant qu'évangéliste, c'est ça, c'est de casser la fausse image qu'ils ont eue, que parfois, nous autres chrétiens, parfois on dit l'ennemi, c'est l'ennemi qui fait ça. L'ennemi, parfois, il est bien aidé par les chrétiens, par les églises, par nos bêtises, parfois. Et nous avons à simplement casser ces murs et de dire, attends, Dieu vient te rejoindre aujourd'hui. Dieu est le Dieu du présent, il s'intéresse à toi aujourd'hui, il est passionné de toi aujourd'hui, il veut que tu réussisses aujourd'hui, ses promesses sont pour toi aujourd'hui et c'est du concret. Et ça marche si tu mets la parole de Dieu en pratique. Alors c'est quoi? Mettre la parole de Dieu en pratique.
Mais comment? Oui, ça c'est une piste.
Oui. Alors je vous pose une question un peu piège. Est-ce que l'on peut, en ayant donné sa vie à Jésus, je ne parle pas d'avoir fait une place pour Jésus dans son cœur. Moi, ma conversion, c'était en deux étapes. La première étape, j'ai accueilli Jésus dans ma vie. Mais viens, Seigneur, dans ma vie. Je te fais une belle grande place. Là, tu seras bien, tu seras confort. Viens dans ma vie. La seconde étape, c'est « Seigneur, je te donne ma vie ». C'est-à-dire, moi qui étais un fanatique des voitures, un addict de la vitesse, quand je roulais, quand nous allions en voiture quelque part, il ne pouvait pas y avoir quelqu'un d'autre que moi qui conduise. Parce qu'il y a deux genres de conducteurs, il y a les autres et moi. Donc ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre que moi. Donc, pour moi, donner ma vie à Jésus, c'est comme si j'avais dit, ok Seigneur, je me mets sur, même pas sur le siège avant, parce que là je pourrais encore tirer le frein pour faire un dérapage dans les contours, je me mets derrière et je te laisse conduire, je te laisse diriger ma vie. C'est ça, laisser le Seigneur diriger sa vie, obéir à ses commandements, prier. Mais est-ce que quelqu'un qui a fait cela consciemment, est-ce que quelqu'un peut, en priant pour un problème spécifique, peut augmenter son problème en priant? Est-ce qu'une prière sincère d'un chrétien sincère, authentique, peut augmenter le problème plutôt que de le résoudre? Alors moi, je l'ai expérimenté et je peux vous dire que oui. Je vous donne un exemple très concret, je raconte ça dans mon bouquin. Au début de ma conversion, je finissais mes études de conservatoire et puis je vivais dans les examens, dans des concerts, un trac ingérable. Ingérable. Les mains qui tremblaient quand tu es percussionniste, c'est pas terrible, c'est comme quand tu es chirurgien, tu peux. Voilà, c'est. Enfin, il y a moins de conséquences pour autrui quand tu es percussionniste, mais ingérable. Et alors, j'avais découvert ce Dieu tout-puissant, le Dieu de miracles, c'est Dieu peut faire quelque chose pour moi. Alors, je vais prier. J'ai un examen, je raconte plusieurs épisodes, là, j'essaie de synthétiser tout ça en une seule histoire. J'ai un examen, donc j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, alors, je vais lui expliquer d'abord, parce que. Il faut qu'il comprenne bien le truc, il ne sait pas ce que c'est lui. Donc, Et méfiez-vous de ces prières-là qui disent « Seigneur, tu vois ». La prière qui commence par « Seigneur, tu vois », tu vas expliquer ton problème. Alors, tu vois, j'ai le trac, Seigneur, tu vois. Alors, d'ici 5 minutes, je vais... Alors, je lève le genou parce que je pensais qu'en position fœtale, ça marchait mieux. Position fœtale, comme ça, tu mets bien la tête dans les genoux et voilà, et tu pries « Seigneur, voilà... tu vois, je vais, et puis j'ai le trac, et puis tu sais comment c'est le trac, je tremble, j'ai les mains moites, j'ai les tripes qui se nouent, j'ai les genoux qui jouent des castagnettes, tu expliques tout ça, et puis « Seigneur, aide-moi ». Et quand tu arrives au bout de la prière, ben, tu as plus le trac qu'avant. Tu as plus le trac qu'avant, parce que tu as tout bien expliqué, et puis tu as encore trouvé des trucs auxquels tu ne pensais même pas. Et tu as plus le trac qu'avant, et tu peux imaginer les démons de l'enfer autour de toi qui disent « Yes, Amen, Amen, vas-y, continue. » Ce genre de prière-là nourrit ton incrédulité parce qu'elle se centre sur le problème. Et là, ce que j'ai compris, alors Dieu m'a fait vraiment une grâce dans ce moment-là. Sans son aide, j'aurais jamais pu terminer mes études de conservatoire. J'étais arrivé vraiment à mon niveau d'incapacité, je ne pouvais pas. Et ça, c'est une grâce que Dieu m'a faite de savoir que voilà... À cette limite, et Dieu était tellement extraordinaire. Il m'a repêché à un an de mes examens finaux de conservatoire. Et j'avais pu, à force de travail et de persévérance, j'avais pu arriver jusqu'à ce niveau-là. Lorsque, pour la petite histoire, n'oubliez pas de rebrancher votre téléphone portable après le culte. Lorsque je passais un examen, mon professeur de percussion avait inventé une mention spéciale pour moi. Il avait inventé la mention à Philippe, c'était la mention « se donne en a et en fait ». La traduction, « se donne de la peine, a de la peine, et qu'est-ce qui fait de la peine ?» Et il a fallu que Dieu me repêche là à un an de mes examens, et là j'ai appris, dans des circonstances comme ça, de trac, à m'accrocher à la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu dis, Seigneur ? Et un verset. La première fois que j'ai fait cette... Ou c'était la deuxième, je ne sais plus. J'ai un coup ouvert ma Bible. Et je disais, Seigneur, il faut que tu me parles. Je vais faire un concert. J'ai joué le boléro de Ravel, pour ceux qui connaissent. J'ai joué ça, la partie Caisse Claire, devant... j'ai fait quatre... bon, ça va beaucoup moins vite que ça. Tan, tacatatan, tacatatan. Et tu joues ça pianissimo, et j'ai joué ça quatre fois devant à peu près 1000 personnes. Tu es à gauche du chef, assis, tout le monde connaît la partition, et puis tu commences tout seul, et tu as 1000 perdieux sur tes baguettes. Et 48 heures après, avant, 48 heures avant, j'étais déjà comme ça. Et... Je dis, Seigneur, parle-moi. J'ai compris qu'il faut que j'arrête de dire ce que je ressens. Parle-moi. J'ai retourné ma Bible parce que, comme ça, je ne savais pas vraiment où étaient les psaumes, machin. Donc, j'ai mis le doigt et puis j'ai retourné et je suis tombé sur une parole d'Ésaïe qui disait ceci: ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs et ils domineront sur leurs oppresseurs. T'en as pas une autre. Et ensuite, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais bon, c'est une parole que Dieu a donnée au prophète Ésaïe, 400 ans avant notre ère, si je ne me trompe, et qui s'adressait à son peuple. Et qu'est-ce que dit cette parole? Ils domineront sur leurs oppresseurs. Le trac, est-ce que ça m'opprime pas un peu? Est-ce que c'est pas comme un oppresseur pour moi? Donc, cette parole, elle concerne, elle est vieille de 24 siècles, mais est-ce que je peux la prendre pour moi? Est-ce que Dieu me parlerait comme cela? Et là, il intervient simplement le choix. Le choix de se dire, c'est la parole de Dieu, et Dieu a utilisé ce moyen. Moi, j'en aurais utilisé un autre. En étant Dieu, j'aurais dit, mon fils, je suis là. J'aurais fait entendre... Bon, il ne l'a pas fait comme ça. Est-ce que je peux croire ça? Et par simplement une décision, je dis, ok, je crois cela. Et j'ai dit, Seigneur, je dominerai sur mon oppresseur, tu es avec moi. Je t'ai donné ma vie. Ok, je choisis de croire ça. Qu'est-ce que ça a changé?
Rien du tout.
Rien du tout. Parce que j'ai choisi de croire que c'était la vérité, mais face à la vérité, il y avait la réalité que je vivais. Il y avait toutes les pensées qui m'assaillaient, qui disaient, regarde en arrière, regarde là où tu t'es planté, regarde, tu vas revivre ça, regarde, t'es mort mon gars, toutes ces pensées qui arrivaient, clac, clac, et cette réalité, elle était palpable, je la ressentais. Mais j'ai choisi d'entrer dans le combat de la foi. Moi, je pense que c'est quand Paul dira à la fin de sa vie, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Ce combat de la foi, le terrain de bataille, il est là, dans mes pensées. Comment je vais gérer entre cette réalité que je vis, ces pensées qui me le rappellent, qui me bombardent continuellement, et puis la vérité. Alors, je vais faire simplement ce que Jésus a fait quand il a été tenté par Satan, dans Matthieu 4. Satan qui arrive avec des paroles, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, etc., etc. Et Jésus ne discute pas, il dit, il est écrit, il prononce la parole de Dieu, il prononce la parole. Et moi j'ai choisi de dire, je prononce la parole. Et chaque fois, je l'ai fait 1000 fois, en 48 heures, j'ai fait 1000 fois dans cette circonstance-là particulière, chaque fois que mes pensées me disaient, oh, mon Dieu, mais comment ça va être? Tu n'y arrives pas, etc. Merci Seigneur, parce que je dominerai sur mon oppresseur. Tu es avec moi. Je dominerai, je dominerai, je dominerai. Et ça a été extraordinaire ce truc. C'était une expérience, ma première vraie expérience de foi où jusqu'au moment, jusqu'à 2 secondes avant que je joue le premier coup, je tremblais. Et j'étais dans le combat spirituel. C'est pas parce que je chasse l'ennemi au nom de Jésus, je chasse. Moi, j'ai jamais vécu grande bénédiction comme ça, mais le combat spirituel, c'est de prononcer la parole de Dieu et mettre en pratique. Alors, pour moi, c'est ça. Mettre en pratique, c'est mettre en bouche quelque part, prononcer la parole de Dieu. Il est écrit, je choisis de croire. Merci Seigneur, parce que tu es avec moi. Et c'est un combat, parce que tes pensées te disent, mais tu vas te planter, t'es mort, t'es, regarde ceci, regarde cela, regarde. Tes pensées, elles te ramènent aux circonstances, tes pensées te ramènent à la réalité. Alors que toi, tu t'accroches à la vérité. Et si tu t'accroches suffisamment à la vérité, au bout du compte, la vérité domine. La vérité gagne. Et ça, je l'ai vécu dans cette circonstance-là. Il y a 4064 coups dans le boléro de Ravel. J'ai fait 4 fois, je n'ai pas raté un seul. Pas raté un seul coup. Et ça, je sais que c'était impossible. Impossible. Ça a été rendu possible par la puissance de la parole de Dieu qui m'a été donnée, comme elle l'est donnée à chacune, à chacun, mais elle nous est donnée comme l'épée de l'esprit que nous avons le choix de laisser dans le fourreau et de croire que ça va suffire, ou de sortir et d'apprendre à manier. L'épée de l'esprit, nous avons à apprendre à la manier. Et trop souvent, de nombreux chrétiens connaissent toutes ces choses, mais ils ne savent pas comment manier cette épée. Il y a à peu près 2 ans, il y a un verre d'eau. À peu près 2 ans, j'ai un téléphone d'un de mes amis, qui s'appelle Étienne d'ailleurs. Et cet ami, il a une petite entreprise, il s'occupe de mon site internet. Et j'ai un téléphone professionnel avec lui, c'est un chrétien. Et puis, je sens qu'il n'est pas bien, je le cuisine un tout petit peu. Il me dit, écoute, je vais faire faillite. J'y arrive plus. Je ne pourrais pas boucler la fin du mois parce que j'ai de grosses factures à payer, je n'ai pas de rentrée, etc. Et je creuse un peu, cet Étienne, il est né, comme on dit chez nous, entre deux pages de Bible. Son père était évangéliste. Ils ont eu la Bible ouverte tous les jours sur la table. Il connaît, j'allais dire, toute la Bible. C'était vraiment sa culture. C'est un gars droit, intègre, un gars qui veut servir Dieu, un gars qui a donné sa vie au Seigneur depuis tout petit, etc. Et il m'explique que ça fait 10 ans qu'il est à son compte. Ça fait 10 ans, selon ses propres termes, il me dit, je vis dans la peur. Je vis dans la peur. Et il m'explique, je dis, voilà, les circonstances sont difficiles, la conjoncture, etc. Très, très souvent, il y a eu de nombreuses, très nombreuses fins de mois difficiles et toujours la peur de ne pas boucler le mois. Okay. Et sur 10 ans, combien de mois n'as-tu pas pu boucler? Il me voyait venir, il me dit, ben, aucun. Et j'ai dit, mon pauvre Étienne, tu as eu peur pour rien. Tu t'es fait voler 10 ans. Tu t'es fait voler 10 ans. On continue dans la discussion. Et plus on parlait, plus il était atterré, parce qu'il me disait, mais cette peur, j'ai transmise à mon épouse, j'ai transmise à ma famille. Il y a un climat de peur dans la famille qui nous pourrit la vie depuis 10 ans. Jean 10:10, le voleur vient pour voler, égorger, détruire. J'ai dit, Étienne, tu t'es fait voler non seulement au point de vue professionnel, mais dans ta vie de famille. Et il était atterré, mon pauvre Étienne, parce qu'en plus de savoir qu'il allait faire faillite, ben, il se rendait compte qu'il avait foiré 10 ans. Et j'ai dit, écoute, est-ce que tu es d'accord de mettre en pratique la parole de façon très simple, de façon presque enfantine? On va, si tu es d'accord, chercher quelques versets que tu connais, tu connais par cœur, autant que moi, et on va les appliquer. Alors, par exemple, j'ai noté Ésaïe 41:10. La parole de Dieu dit ceci, c'est Dieu qui parle, ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ça, c'est ce que Dieu dit, le conseil de Dieu. Tu peux lire ça, dire, voilà ce que Dieu dit. Amen, je suis d'accord. Mais tu ne mets rien en pratique, tu prends acte de ce qui est écrit. Ou tu peux dire, je reçois cela, ok, tu me recommandes cela, Seigneur. Alors, par un acte de foi, je vais dire, je vais décider et je vais reprendre, je vais faire mienne cette pratique, pratiquer cette parole, et je vais dire, Seigneur, je ne crains rien, car tu es avec moi. Je ne promène pas des regards inquiets, car tu es mon Dieu. Tu me fortifies, tu viens à mon secours. Tu me soutiens de ta droite triomphante. J'ai prononcé ce verset l'année passée au Burkina Faso. Une nuit, je logeais quelque part et j'ai eu une visite d'une puissance diabolique qui est venue me rendre une gentille visite dans ma chambre. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est sensible aux esprits, qui ressent les puissances, qui va arriver dans une région et dire « Ouh, je sens un climat spirituel, je respecte tout à fait ce genre de don qui est donné à certains. » Moi, je ne l'ai pas, je ne ressens rien, des fois un peu sous les bras quand... Mais pas plus que ça. Pour vous dire que je ne suis pas perméable à ça. Et cette nuit-là, je me réveille au milieu de la nuit et je suis terrifié de vivre, de ressentir cette visite diabolique que j'ai, qui, c'est inexplicable. C'est comme quand tu, dans l'autre extrême, quand tu vis une visitation de Dieu, cette puissance d'amour qui te saisit, c'est pas explicable. Et l'inverse, c'est pas explicable non plus. J'étais terrifié. Et les genoux qui jouaient des castagnettes, tu peux... Et là, instantanément, cette parole est venue. « Seigneur, je ne crains rien. » Je ne crains rien car tu es avec moi. Je ne promène pas des regards inquiets car tu es mon Dieu. Tu me fortifies, tu viens à mon secours. Tu me soutiens de ta droite triomphante. Je ne sais pas si j'ai eu le temps de prononcer ces paroles deux fois. Cette puissance est partie comme elle était venue. Je termine avec mon frère Étienne. On a choisi 2, 3, 4 versets comme ça. Et il s'est engagé à entrer dans le combat de la foi, à proclamer ces paroles, à choisir la foi. C'est allé 3 ou 4 jours. Il m'appelle, il me dit, Philippe, hier soir, je me suis retrouvé dans mon bureau, à genoux, à pleurer comme un gamin. Pleurer déjà de reconnaissance face à Dieu qui a agi d'une façon totalement imprévisible. Je ne pouvais pas m'attendre à cela. Il a agi, il m'a délivré de la faillite. Mais j'ai pleuré de honte aussi. J'ai pleuré de honte. Je me suis repenti. J'ai dit, mais Seigneur, pendant 10 ans, je t'ai pas fait confiance. Je t'ai pas fait confiance. C'est comme si j'avais été en complète contradiction avec toi. Je crois avec ma tête. Oui, je crois. Mais je te fais pas confiance. Je te fais pas confiance. Et lorsque je doute, lorsque j'ai peur, lorsque je me laisse submerger par le souci, lorsque je suis terrifié par la crainte, c'est comme si je disais à Dieu, je ne te fais pas confiance. Et c'est le problème de nombreux chrétiens, tout aussi sincères que vous et moi, On croit à la vérité, mais on vit dans le mensonge. Pourquoi? Parce que l'ennemi vient dans nos pensées, vient nous submerger de pensées, de doutes, de craintes, d'inquiétudes, de toutes sortes de bazar qui nous submergent. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait comme Satan, comme Adam et Ève ont fait quand ils ont été tentés par Satan. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont discuté. Dans Genèse 3, quand Satan vient, le serpent, là, dit, mais Dieu a-t-il réellement dit que vous ne pouviez pas? Il met le doute. Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils font? Ils discutent, ils parlementent. Non, mais c'est en fait, Dieu nous a dit, en fait, voilà. Et ils ont déjà perdu. Parce que l'ennemi, il a quand même quelques millénaires d'expérience, ils ont déjà perdu. Jésus, lui, ne discute pas. Il prononce la parole de Dieu. Il est écrit, clac. Et la parole de Dieu a une puissance extraordinaire. Je l'ai expérimenté à maintes reprises. L'année dernière, j'ai vécu deux accidents. Le premier, c'est que je me suis coupé le bout des deux doigts ici, sous ma scie circulaire. Le second, c'était un gros accident sur l'autoroute où on était avec mon épouse et mon épouse dormait. Et moi, je voulais la laisser dormir. Je voulais pas trop, je voulais pas faire de bruit. Je voulais m'arrêter au prochain arrêt pour être discret, pour qu'elle puisse bien terminer sa sieste. Et puis je me suis endormi avec elle. Donc on s'est arrêté brutalement. Enfin, ça n'a pas été brutal, ça a été enfin brutal, mais pas rapide, puisque on était à peu près à 150 à l'heure. On a valdingué. Taper une voiture, la Bertrams, tout ça retournait dans tous les sens. Et on avait le sternum cassé tous les deux. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais dans cette circonstance-là, nous étions blessés, avec mes doigts j'étais blessé aussi. Et mettre la parole de Dieu en pratique, c'était quoi dans cette circonstance-là? De pouvoir dire, voilà, je suis face à une réalité, je ne peux pas nier cette réalité. De blessures, de souffrances, ça c'est la réalité. Mais qu'est-ce que la vérité de la parole de Dieu dit? Et vous connaissez sans doute par cœur Ésaïe 53, car il était blessé pour on va la lire. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ça, c'est ce que Dieu dit, ça, c'est l'information. Tu peux prendre acte, voilà, c'est nos souffrances qu'il a portées, etc. Mais quand tu es dans la souffrance, quand tu vis la réalité de la souffrance, tu peux dire, voilà, ça, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité, mais là, c'est la réalité qui prédomine. Ou tu peux dire, je vis dans cette réalité de souffrance, mais je choisis la vérité. Et tu peux prendre ces paroles à ton compte et dire, Seigneur, ces douleurs que j'ai à affronter maintenant, tu les as portées. Tu t'es chargé de ma souffrance, de cette souffrance-là. Tu t'en es chargé. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur toi. Par tes meurtrissures, je suis guéri. Il ne s'agit pas de nier la réalité, mais de choisir la vérité pour faire dominer sur cette réalité. Et dans les deux circonstances, j'ai vu Dieu agir. J'ai vu Dieu agir de façon merveilleuse. Pour terminer le témoignage de ce frère, d'Étienne, ça fait un peu plus de 2 ans, là, on s'appelle une fois par mois à peu près. Il me dit, mais Philippe, ma vie a changé. Ma vie a changé. Ça fait 2 ans, ma vie a changé. L'atmosphère dans la famille a changé. Il n'y a plus cette peur. On sait que Dieu est là. On proclame la parole de Dieu. Et il y a une atmosphère de paix qui s'est créée. Mes enfants l'ont vu. Ma femme l'a vu. Ma femme elle-même change parce qu'elle vivait très mal pendant 10 ans. Et l'atmosphère a changé. Il y a vraiment un mur qui est tombé. Et je sais que Dieu est là et j'ai confiance. Et il y a eu des mois difficiles depuis